C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et ce matin, on vous emmène dans les champs. On va parler rapport entre marque et agriculteur. Et pour m'accompagner, eh bien, j'ai mon sartois de service. Je ne pouvais pas trouver mieux. Camille Poignant. Salut Camille.
Salut Thibaut. Salut tout le monde. Alors, vous me voyez pas, mais j'ai mis une chemise à fleurs. Voilà. Alors, je sais que Thibaut adore.
Ceux qui sont sur Twitch le voient.
Ah oui, c'est vrai. Voilà. Regardez cette belle chemise à fleurs. Hein. Quelle meilleure chemise pour parler de cette relation entre le champ et l'assiette qui est de plus en plus proche dans l'esprit des consommateurs.
Ouais, elles sont nombreuses, les marques de food française, à travailler main dans la main avec leurs partenaires agriculteurs. Et depuis 5 ans à peu près, hein, on n'aura jamais vu autant de champs et de tracteurs sur les emballages et les comptes réseaux sociaux des grandes marques alimentaires françaises. Pierre, dans son champ, qui nous explique que son blé, bah, il est produit sans pesticides. Christelle, qui nous raconte que ses cochons sont élevés sans antibiotiques. Que se passe-t-il? Les consommateurs, eh bien, ils veulent savoir. Ils veulent savoir d'où viennent leurs produits. Nous voulons avoir la certitude que nos produits, ils sont bel et bien faits, que c'est du vrai, pas de l'industriel, que c'est du local. Et pour les marques, hein, les agriculteurs, ils sont aujourd'hui non seulement des partenaires commerciaux, mais aussi une caution de réassurance. Ça, c'est intéressant, on va en parler ce matin, hein. Intégrer de la grille dans sa prise de parole de marque, eh ben, c'est en passe de devenir un essentiel, une sorte de pilier de contenu indispensable d'une prise de parole de marque sur les réseaux sociaux. Les agris, hein, ces femmes et ces hommes qui se lèvent chaque matin pour aider les Français à remplir leur frigo ou leur placard, hein. Les agris, ce sont aussi eux, hein, qui en prennent plein la tronche, hein, dès qu'il y a un truc qui dépasse. Il y a aussi ça, être agri aujourd'hui en France. Et paradoxalement, du coup, les agris, ils suscitent autant d'amour, eh ben, que de méfiance. Le conso, il aime la carte postale, mais il se méfie aussi des histoires trop belles, surtout quand elles sont racontées par une marque. Et ce matin, eh ben, on va parcourir ensemble des stratégies de prise de parole de marque. Je pense qu'on a à peu près 5 marques ce matin, hein, à vous présenter, où les agriculteurs sont au cœur de leur prise de parole. Et on va constater que c'est une tâche qui est plus délicate qu'il n'y paraît. Hein.
Et c'est marrant, hein, ce que tu dis là, que donc les consciences ont, ça fait plusieurs années que ça change. Hier, on parlait des pratiques de consommation qui ont changé ces 12 derniers mois pendant le Covid, hein, donc ça a été un accélérateur de conscience en ce sens, hein, plus de local, plus de bio, plus de français. Ça avait déjà commencé à évoluer avant, hein, cette ère du consommateur conscient, ce consommateur qui n'est pas dupe, qui veut savoir d'où viennent ses produits, encore mieux s'ils sont français. Et d'ailleurs, on observe, hein, et je l'ai encore plus vu en observant certains comptes là hier, que avant, on va dire même l'an dernier, il était super important de mettre en très gros le drapeau français. Il fallait voir le drapeau français. Aujourd'hui, on a besoin de plus de voir de champs, de légumes, de mains sales, que de drapeau français. Il va être dans un coin, il va être dans le discours, mais on a besoin de voir que c'est des légumes qui viennent du champ, et s'ils sont français, c'est encore mieux.
Ouais, c'est le fameux du champ à l'assiette. Est-ce que tu veux commencer avec une première marque? Moi, j'en ai une si tu souhaites.
Eh ben, comme tu veux.
Bah, c'est toi qui me dis.
Voilà. Vas-y, lance-toi.
Allez, je vais vous parler des deux vaches. C'est la petite marque de yaourt bio au look artisanal et au marketing décalé. C'est où tu le vois, hein, tu vois les.
Ah ouais,
alors je dis petite marque, évidemment, c'est un clin d'œil, hein, parce que derrière les deux vaches, eh ben, il y a un géant. Un géant des produits laitiers, c'est Danone, hein, qui est derrière cette petite marque au look artisanal. Les deux vaches a été racheté en 2001 et par Danone, et c'est très vite devenu un peu la pépite bio du géant. C'est en Normandie que l'histoire a débuté, hein, dans le village de Saint-Jean-des-Bézans en Manche. Est-ce que tu connais, non?
Ouais, bah ouais, la Manche.
La Manche,
ah, c'est beau.
Aujourd'hui, quelques 25 éleveurs travaillent en direct pour les deux vaches et produisent 8 millions de litres de lait par an. Oui, c'est ça qu'il faut pour faire des yaourts. Sur Facebook, les deux vaches chez 200 000 abonnés. Quand on va sur le compte, qu'est-ce qu'on voit? Bah, c'est beau, c'est frais. Évidemment, c'est super cohérent avec le reste de la communication de marque. Hein, on retrouve l'univers, hein, des packagings. Mais surtout, les deux vaches met massivement en avant ses partenaires agriculteurs, dont certains effectue en ce moment une transition vers une agriculture 100% biologique. Et c'est justement un des axes que travaille la marque, raconter le déclic et les challenges auxquels font face les agriculteurs engagés, qui aussi challengent leur propre pratique hein, de l'agriculture et essayent d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'on y voit? Il y a notamment cette série de vidéos que je trouve très intéressante où la marque raconte cette aventure du passage au bio. On voit Louise qui est responsable marketing de la marque qui va échanger avec Mathieu qui est éleveur laitier en bio et qui lance carrément un crowdfunding pour basculer son exploitation vers une alimentation 100% en herbe. Ce qu'il explique, hein, c'est que aujourd'hui, il a pas suffisamment, ses terres ne sont pas suffisamment fertiles pour avoir suffisamment d'herbe pour nourrir ses vaches. Donc du coup, il se retrouve à devoir acheter de la nourriture bio auprès de ses voisins. Et du coup, il monte un crowdfunding sur une plateforme qui s'appelle Mimosa. Je connaissais pas précédemment.
Non plus, hein.
Je suis allé voir, c'est intéressant. Il y a beaucoup de projets liés à l'agriculture, au bio, à la transition alimentaire. Et du coup, eh bien, la marque, elle invite les consommateurs à être partie prenante hein, de ce projet en finançant le coût additionnel pour l'éleveur, pour Mathieu l'éleveur. Les premières participations s'ouvrent à 10 euros et tout. C'est intéressant, je vous mets le lien hein, direct vers cette opération de crowdfunding et surtout de voir comment la marque hein, raconte tout ça et tâche de créer du lien et de tâche aussi de rendre participatif et de montrer que l'engagement il doit être aussi du côté des consommateurs et que les consommateurs peuvent être acteurs aussi de ces transitions-là. Hein. Autre chose pour les deux vaches, autre élément de contenu que je trouve intéressant, c'est un podcast qui s'appelle La Nouvelle Assiette. Je ne connaissais pas, je suis tombé là-dessus, c'est plutôt bien fait. C'est donc La Nouvelle Assiette, un podcast qui part à la rencontre d'acteurs qui ont un impact positif grâce à l'alimentation, producteurs, transformateurs, distributeurs, chefs, etc. Il y a déjà une dizaine d'épisodes d'à peu près une trentaine de minutes qui sont donc une série d'échanges avec voilà des agriculteurs, parfois des petites marques aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que des acteurs des deux vaches. Il y a aussi des marques externes qui sont peut-être déjà un cran plus loin hein, dans leur démarche.
Mmh.
Voilà, pas mal ce que fait les deux vaches et je trouve que ce qu'il y a de malin, c'est que c'est bien amené et on disait c'est pas simple de travailler avec les agriculteurs, c'est pas simple aussi d'avoir d'éviter le ton un peu condescendant qu'on peut trouver parfois et là je trouve que l'équilibre est plutôt respecté.
Eh ben super intéressant, ça me fait penser à un truc que je me note dans un coin de tête pour tout à l'heure. Moi je vais te parler de Super U. Alors U les commerçants et U les Alpes. Alors on en a déjà parlé.
On aime bien ce que fait U les
Alpes. Ouais. On adore. Alors U les Alpes, il y a une série qui s'appelle une web série qui s'appelle Très près de vous, très près du local d'ailleurs. C'est marrant parce que le très près du local, on le voit que dans un épisode, mais il est là. Donc c'était un peu le sujet aujourd'hui. Donc c'est la web série des supermarchés U les Alpes. On en avait déjà parlé il y a quelques temps dans un épisode dédié aux web séries. D'ailleurs on vous remettra le lien à l'époque où nous aussi on était en tournage en vadrouille. Ça fait 2 ans que Théo, d'abord stagiaire chez Super U, nous a fait découvrir des produits locaux et nous emmène à la découverte de leur terroir, un moyen entraînant de conforter l'ancrage local de U les Alpes, plus précisément donc dans la région Rhône-Alpes, mais aussi de jouer la carte de la proximité avec les produits et les producteurs de la région. Des spiritueux au fromage, en passant par le jambon et le saucisson, U les Alpes, au travers de cette web série, elle met en avant des spécialités iconiques, on va dire. Donc dans la saison 2, qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps, on le voyait partir à la rencontre d'un producteur d'huile de noix à Saint-Romand. Et là, c'était vraiment des champs au moulin, l'axe de l'épisode. Donc on le voyait qui pressait l'huile, etc., qui montrait l'huile en rayon, hein, ça part toujours de là. Donc on voit que ce produit est bien chez Super U, qui a une relation très saine, très amicale avec le producteur. Le message est clair, honorez vos producteurs locaux. C'est à la fin de tous les wordings de chaque épisode.
Pour le support your local heroes, hein, c'est ce dont
exactement,
on parle.
Exactement, honorez vos producteurs locaux, c'est tout à fait ça. Pour le lancement de la saison 3 d'ailleurs, alors là c'est plus, on rentre dans la technique, mais ils ont fait un teaser en vidéo première sur Facebook, donc j'ai trouvé ça très marrant, une espèce d'annonce façon cinéma. Donc la saison 3, hein, ça fait 3 ans que ça dure, ça passionne les gens, c'est partagé des millions de fois, la websérie
elle cartonne. La websérie elle cartonne, j'ai essayé de chercher le nombre de vues, mais on avait regardé ça.
On a des 150 000 vues ouais, sur chaque épisode et ça dure dans le le temps. Donc c'est vrai qu'ils installent une vraie relation de confiance. Donc on vous mettra les liens pour ça, pour la partie U les Alpes. Et j'ai trouvé aussi quelque chose d'intéressant chez U les commerçants. C'est une saison qui est en cours. Là c'est sur YouTube. Ça s'appelle le meilleur du local et ça rejoint un peu ce que tu disais. Là t'avais tout à l'heure toi chez les deux vaches la marque qui discute, donc un responsable de marque qui discute avec un agriculteur. Nous on avait fait cette expérience chez Cochonou. On avait des personnalités de la marque qui parlaient aussi avec un agriculteur
dans une web série que vous pouvez toujours retrouver hein, qui s'appelle
Passion Saucisson.
Passion Saucisson, voilà. Donc qui on avait eu l'idée de ce nom. Je trouve c'est bon.
Je trouve ça original.
Voilà, on était inspirés.
Tout à fait sexy. Donc là, tu vois, il y a toujours cette transition hein, de on parle pas du tout aux agriculteurs, on les laisse en retrait, on commence à leur parler. La marque s'interpose. C'est pas juste les agris, tu vois, il y a la marque entre les deux. Donc c'était le cas pour nous, c'était le cas pour les deux vaches. Et là, chez les commerçants, c'est donc une série de 21 épisodes publiés dans les derniers mois. Hein, ça fait 5 mois. Dans chaque épisode, t'as un responsable de magasin d'une zone géographique bien précise. Hein. Il y avait d'ailleurs la directrice de Rumilly. Tu vois, Rumilly, c'est pas très loin d'ici. Qui parlait voilà de son magasin, qu'elle a repris le magasin, qu'elle est contente de travailler dans cet environnement. Forcément, t'as le magasin en fond, les champs à côté. Et puis elle va nous parler d'un produit. Là, c'était le jus de pomme Thomas le Prince, qui est produit pas très loin. Et elle expliquait qu'elle souhaite donner sa chance à un produit local. Donner sa chance à un produit local, c'est donner sa chance à l'économie locale. Donc, on est vraiment dans cette relation-là, en mettant la marque, le magasin, le responsable du magasin, même. Hein, c'est une manière de personnifier, d'humaniser ce magasin, cette chaîne de grande distribution nationale. Avec un humain qui en parle et puis qui nous présente un autre humain qui fait ça, de ça son métier et qui le vend dans les rayons de Super U.
Ouais, c'est bien ce qu'ils font, voilà. Lui, hein, ils sont malins.
C'est simple.
C'est bien fait, voilà, encore une exactement. Fois. Et t'as raison, intégrer les marketing, intégrer la marque hein, dans la prise de parole, c'est-à-dire créer ce lien et pas juste être descendant, aller foutre une caméra dans un champ et faire parler un agriculteur ou un éleveur, mais vraiment être dans un échange, une discussion.
Et on sait que c'est pas facile. Hein.
Et on sait que c'est pas
pour
simple.
Pour la marque, pour celui qui filme, pour l'agriculteur en face, donc c'est
effectivement,
un gros challenge.
Effectivement. Allez, maintenant, on va aller du côté de la Sarthe. C'est pour toi.
Quand tu me flattes.
J'ai pensé évidemment au fermier de Loué. Le fermier de Loué, c'est une coopérative agricole, un regroupement de fermiers éleveurs de volailles qui s'est rassemblé autour de cette marque, un fermier de Loué, depuis plus de 60 ans. Eh bien, les éleveurs de Loué, ils défendent l'élevage en liberté, hein, c'est ça leur truc. C'est évidemment label rouge et puis pour certains produits, c'est même bio. Aujourd'hui, c'est la marque leader de la volaille fermière en France, donc c'est pas un petit acteur hein. Nous on y est allé hein, chez Loué, on a visité ensemble une exploitation Loué. Franchement, c'est bien fait hein. C'est vrai que quand tu as visité une exploitation de Loué, tu te dis ils ont matière à raconter des choses, ils ont plutôt les mains propres et c'est effectivement c'est quelque chose qu'on a envie en tant que consommateur de voir aussi. Et surtout qu'on se pose beaucoup de questions autour de la provenance des œufs, autour de la viande qu'on mange, etc. Sur Famille de Loué sur Facebook, c'est 21 000 abonnés, ils sont aussi sur Instagram, 1500 abonnés, c'est plus modeste. Et là, ils ont un contenu que je trouve très intéressant, ils ont vraiment un contenu qui est sur le principe du champ à l'assiette, des portraits croisés entre des chefs et des agriculteurs dans une série qui s'appelle Quoi de neuf à louer. Je trouve que c'est pareil, je trouve que c'est très bien fait, c'est sur l'humain, la production est plutôt chic hein, c'est pas fait à l'iPhone, c'est une belle production, ils ont sorti des caméras, une vraie prise de son, mais pour autant on n'a pas le ton lycée ou le ton agence parisienne hein. Ils ont gardé ce truc voilà, on est sartois et on est fiers de le faire. Une vidéo d'exemple hein, qu'on vous met en lien de cet épisode, c'est une vidéo de rencontre entre un pâtissier qui s'appelle Sébastien Guillemard, et puis un éleveur, et du coup de savoir comment il intègre les œufs hein, dans ses préparations. Donc l'échange est intéressant. Puis une autre rencontre autour du chapon fermier. Ça, j'ai trouvé ça vachement bien parce que on le sait, chaque année il y a débat hein, au moment de Noël, au moment des fêtes sur le chapon, sur le sujet de la bientraitance animale, etc. Et donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont il y a David, éleveur de volailles, qui fait visiter son exploitation à un chef restaurateur et puis il y a une blogueuse food. Hein, donc là, il y a un truc malin, c'est à la fois contenu de marque et puis à la fois influence marketing.
Contenu viral. Ouais.
Exactement, une vidéo de 5 minutes hein, quand même au cœur de l'exploitation et on y voit tout, hein. On voit vraiment les portes s'ouvrent et la tonalité est très sympa, je trouve que ça marche bien, pareil je vous mets le lien vers cette vidéo YouTube. Autre truc qui travaille dans la durée Loué et que je trouve intéressant, c'est une campagne qui s'appelle 365 jours chez Loué. Ils le savent, forcément ils sont au cœur du sujet puisqu'ils sont composés d'agriculteurs majoritairement. Oui, être agriculteur aujourd'hui en France, c'est compliqué. L'agribashing est jamais très loin et surtout, il y a des zones de flou, il y a des zones de doute, il y a des craintes, il y a de la défiance hein, vis-à-vis des agriculteurs. Ça sont à la fois nos héros et à la fois, eh ben, on est extrêmement vigilant et parfois un peu suspicieux quant aux agriculteurs en France. Et du coup, 365 jours chez Loué, c'est une opération qui dure toute l'année et chaque jour, il y a une exploitation louée qui ouvre ses portes au public et qui fait visiter l'exploitation comme on l'a fait, c'était peut-être un jour où il y avait un 300. Voilà, et tous les jours, eh bien, les portes sont ouvertes et surtout, tous les jours, eh bien, il y a du contenu, il y a de la documentation, tout ça est raconté sur les réseaux sociaux. Il y a notamment une highlight story sur Instagram qui est très intéressante comme ça, ou des photos qui arrivent de temps en temps dans le feed Instagram ou sur le compte Facebook de consommateurs, de clients qui viennent visiter une exploitation, qui découvrent comment c'est fait. Je vous mets pareil un lien vers une highlight story qui montre comme ça ces moments de vie et pareil ces rencontres avec entre conso et agriculteur, ça c'est très intéressant.
Il y a tellement de choses à raconter. Je me vois bien faire une web série autour de la vie d'une poule de chez Loué, 6h30, je cours dans les champs.
Il y a des trucs à faire, ouais.
Et bah super, ça me fait plaisir, écoute, qu'on parle un peu de chez moi.
T'avais autre chose ou pas ?
Oui, bien sûr. Moi je vais te parler de Dossi. Dossi, ouais. Alors déjà j'ai découvert qu'il y avait un apostrophe, ça c'est quelque chose, voilà, faut le dire, faut le souligner. Dossi, marque d'agriculteur. Dossi, c'est cette marque qu'on connaît tous, qu'on a déjà vu en rayon, on connaît le logo, et si on se penche dessus d'un peu plus près, on découvre une marque qui met en avant de vraies valeurs agricoles et qui n'hésite pas à les communiquer. Dès l'emballage d'ailleurs, on lit marque d'agriculteur, alors je l'ai vu très gros sur les réseaux sociaux, je m'en étais jamais rendu compte sur le packaging, et pour moi c'est hyper important, ça me donne envie encore plus d'ailleurs. Et sur le réseau, le slogan est clair. Au fil de ces 50 dernières années, Dossi a réuni 1500 agriculteurs, tous producteurs adhérents. Dans une relation de proximité, ils travaillent ensemble chaque jour pour offrir le meilleur de la terre et mettre à votre service leur passion. Donc déjà, je trouve que l'accroche n'est pas marketing, elle est vraiment orientée vers cette coopérative d'agriculteurs. La marque est née autour d'une coopérative d'agriculteurs du Morbihan dans les années 60 et aujourd'hui, elle poursuit plus que jamais sa mission première, valoriser le travail de ces agriculteurs en prenant des méthodes de culture vertueuses pour proposer des produits plus responsables et
ça,
de qualité.
Ça, c'est le site internet de Dossi,
ah,
t'es en train de
le
lire.
C'est la première phrase, tu vois, exactement. Non, il fallait la mettre, c'est leur engagement en tout cas. Et quand on écrit ça sur ses réseaux et sur son site, ben, on est obligé de s'y tenir. Hein. Sur ses comptes social media, hein, la marque met en avant des recettes, bien sûr, hein, puisque c'est aussi une marque de food, mais surtout des agriculteurs, des portraits, des témoignages. C'est un nouvel axe hein, qui est commencé depuis quelques mois. L'axe choisi, il est très technique. On parle de rotation des cultures, de réserves collinaires. J'ai appris ce que c'était, des réserves d'eau créées naturellement dans les champs, de cultures diverses. Donc ça fait 4 mois. Ce qu'on observe avant hein, sur le compte, c'est qu'il y avait de très belles photos de légumes, des mains qui plongent dans des légumes, des champs de haricots. Mais au final, c'était quand même très macro et ça ressemblait à ce que tu pouvais faire chez toi. Donc là, on s'est encore rapproché de l'agriculteur. On s'est rapproché vraiment des champs et depuis décembre, donc Dossi revient à la source. Les agriculteurs, en interrogeant Pierre, Martine, Michel, dans leurs champs directement, il y a des micro-formats qui s'appellent la minute responsable. C'est une minute et c'est avec un ton très décontracté. Pierre, tu as une minute, vas-y, c'est à toi. Et puis après, il part dans son explication sur le sujet. Et donc, super, j'ai adoré, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai parcouru plusieurs marques, j'ai essayé de trouver des trucs, même chez Biocoop. J'ai regardé plein de chaînes de magasins qui, pour moi, avaient une velléité à parler, comme ça, de bio, à montrer le champ, l'assiette. Et pour autant, bah, j'ai pas trouvé, tu vois, c'était pas aussi flagrant. Chez Dossi, j'ai trouvé ce que je cherchais. J'ai même découvert qu'en décembre, en collaboration avec le magazine Ça m'intéresse, Dossi a fait un premier épisode de podcast, donc c'est
passe,
marrant.
Il se passe quelque chose. En
du champ à l'assiette, aux oreilles. Donc j'ai pas écouté, j'ai découvert ce matin. Désolé. Donc la série d'un épisode pour l'instant s'appelle Il était un pois et le premier épisode c'est comment devenir agriculteur. Dans la description, on voit que ça nous orientera vers l'agro-responsabilité, vers plein de choses. Là, c'est il est destiné un peu aux enfants. Le premier, Il était un pois. Mais en tout cas, j'adore la DA, j'adore l'idée. Je trouve que ça peut être super intéressant. Donc je vais l'écouter juste après.
Très bien. Eh ben, tu nous mets le lien en note de l'épisode, voilà. Donc, qu'on aille écouter ça. Allez, moi, je vais finir avec Blédina. Blédina, qui a deux opérations que je trouve très intéressantes. La première s'appelle la cueillette des curieux. Pareil, là aussi, cultiver le lien entre la marque, les clients, l'agriculteur. Comment on travaille avec ce triptyque là, hein, ce triangle d'or et là où la relation se joue. Eh ben, depuis 3 ans, Blédina propose des après-midi de cueillette en famille chez des agriculteurs partenaires. Je trouve que c'est bien fait. Évidemment, tout ça est documenté sur les réseaux sociaux. Évidemment, il y a de la story, de la vidéo, etc. On en trouve à peu près partout. Avec un slogan que je trouve drôle, c'est « Je suis venu, j'ai vu, j'ai cueilli ». Je trouve ça rigolo. Le principe, c'est qu'il y a un agriculteur qui ouvre les portes de son exploitation et les familles, elles peuvent participer à la cueillette. Elles peuvent s'inscrire préalablement depuis les réseaux sociaux de la marque et puis elles peuvent participer à une cueillette et puis surtout échanger avec des experts de la marque, des nutritionnistes, etc. Cible évidemment jeune maman ou jeune parent, mais c'est bien fait et pareil, la manière dont c'est documenté, c'est super frais, c'est très kid-friendly, très pédagogique et très décomplexant quant à ces sujets-là. J'aime bien la tonalité, hein. Donc pareil, sur Instagram, Facebook et YouTube, je vous mets les liens en note de cet épisode. Et puis une autre opération, qui est une opération qui a un peu la même tonalité, qui est Sauver Williams.
La poire.
Pas William l'énergie, rien à voir. Sauver Williams, la poire, exactement. Parce qu'il se trouve que la filière de la poire française, elle est en grande difficulté. Et Blédina,
pas chez moi, hein.
Pas partout. Oui, je vois le genre de poire dont il parle. Là, c'est pas tout à fait la même. C'est celle qu'on met dans les petits pots, hein, pour enfants. Bellidina s'est engagée à replanter 40 000 poiriers en France. Ça, c'est l'engagement de marque. Et comment ils vont le faire? En mettant aussi à contribution leurs consommateurs et les invitant à participer, à donner un coup de main. Et ils font la même chose, le même principe, c'est-à-dire des rencontres in real life. Alors évidemment, tout ça a pris un peu un coup dans l'aile, hein, depuis mars dernier. C'est une opération fil rouge, hein, qui dure depuis 3-4 ans. Donc pareil, des après-midi comme ça, plantation en famille, chez les agriculteurs, avec une vraie rencontre in real life qui est documentée sur les réseaux sociaux. Ce lien-là entre la vraie vie rapporter les trois acteurs majeurs de l'équation, la marque, le producteur, le consommateur, dans une rencontre physique et la documenter sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est très intéressant.
Ouais, et puis de toute façon, tu peux pas trop bullshiter là-dessus. Tu peux pas demander à un gosse de refaire les images, donc ça va être au plus naturel. Et je rebondis là, tu parlais donc de cette opération « Je suis venu, j'ai vu, j'ai cueilli ». J'adore. Il y a un truc, hein, qui est encore plus important là pour Blédina, j'imagine, dans cette opé-là, c'est que on parlait tout à l'heure d'ailleurs du consommateur conscient, de la volonté de mieux manger, de mieux savoir d'où viennent les choses. Et si tu rajoutes là-dedans, dans l'équation, touche pas à mon gosse, je veux le meilleur pour mon gamin, oui. Je veux que la bouffe soit vraiment bonne. Si toi, t'es dans cette démarche-là, Blédina va vraiment au bout. Et là, c'est la transparence maximale. Si t'es un parent engagé, conscient, qui veut du local, etc., t'as forcément envie d'avoir la même chose pour tes enfants. Et si t'as une marque en face qui propose ce genre de choses et qui va jusqu'au bout, je pense que c'est le bingo. Donc t'es obligé quand t'es une marque.
Et juste un détail, qui n'en est pas un, dans la mécanique, le fait de faire ces rencontres in real life, de faire ces vraies rencontres en faisant venir des consos, c'est aussi l'occasion rêvée de faire de l'UGC, hein, c'est-à-dire mes ambassadeurs de marque, mes clients deviennent mes ambassadeurs de marque, produisent du contenu en ligne, racontent eux-mêmes l'histoire, et à ce moment-là, elle prend une tournure différente de quand c'est moi qui la raconte.
Une histoire familiale, ça devient presque.
Et puis ça devient une histoire qu'on a envie de croire, à la différence d'une histoire racontée par une marque.
Exactement.
On a fait le tour?
Bah ouais, on a fait le tour.
Voilà, c'est déjà pas mal.
Un bon début de vendredi, ça.
Exactement, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous écouter. Cet épisode, vous l'écoutez sur une plateforme de podcast, Apple Podcast, Spotify, etc. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire, à partager cet épisode à une pote, à un pote. Et puis, on vous donne évidemment rendez-vous sur les réseaux sociaux pour continuer cette conversation.
Sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Twitch. Et si vous avez envie, laissez-nous un petit commentaire. On y répondra sur le sujet, sur autre chose. Sur les agriculteurs.
Exactement. Merci à vous tous. On vous souhaite une très très belle journée, un très beau week-end et on vous donne rendez-vous dès lundi sur Clubhouse lundi. Hein,
oui, lundi matin, Clubhouse.
Ceux qui sont sur Clubhouse.
Plus en direct.
Plus en direct, évidemment.
Allez, salut à tous.
Ciao.